Voici les deux textes liturgiques pour cette fête du Saint-Nom de Jésus. L'épître est tirée des Actes des Apôtres de Saint-Luc. En ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit « Prince du peuple et ancien, écoutez, si l'on nous interroge aujourd'hui à l'occasion d'un bienfait accordé à un infirme et qu'on nous demande par qui cet homme a été guéri, sachez-le, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se tient debout devant vous, pleinement guéri. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, les 8 jours étant accomplis pour la circoncision de l'enfant, il fut appelé Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein de sa mère. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Attention, cette semaine, donc, j'ai ma mission à Andorre en fin de semaine, donc vendredi et samedi, pas de messe à Pas d'Iès. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, messe à 8h. Je m'excuse auprès de tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui n'ont pas pu avoir la messe dimanche dernier, donc j'ai eu un problème technique avec la caméra, et donc j'ai pas pu malheureusement enregistrer la messe. Donc je m'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas pu avoir la messe à cause de ça. Je rappelle que la prochaine réunion du tiers ordre aura lieu le samedi 18 janvier. Prochain repas de paroisse le dimanche 26 janvier. Donc ce mercredi à 19h, il y aura le cours de doctrine sur les actes du magistère à Pas d'Iès. Au niveau des retraites, j'ai encore une place pour chacune des 2 retraites du mois d'octobre. Toutes les autres retraites sont pleines. Je vous demande aussi de faire un gros effort pour accueillir avec bonté tous les gens nouveaux qui viennent. Vous ne vous rendez peut-être pas compte du travail incroyable qui est en train d'être fait par la grâce actuellement. C'est du travail très discret qui ne se voit pas beaucoup. Pour vous donner une idée, bien sûr, je ne donne aucun nom. Rien qu'actuellement, je suis en train de préparer 3 ménages à régulariser leur situation. Parfois des gens qui vivent, donc ont vécu dans le concubinage pendant des années, qui, touchés par la grâce du bon Dieu, demandent à pouvoir régulariser leur situation, retrouver la grâce du bon Dieu. Des gens qui ne sont pas confessés parfois depuis 20, 30, 40 ans, qui demandent à se faire préparer une bonne confession générale. Donc tous ces gens cherchent Dieu, il faut les aider. Il faut prier pour eux d'abord. Puis quand vous avez des nouvelles personnes qui viennent, accueillez-les avec bonté pour que ces gens se sentent accueilli ici. Il faut vraiment que la chapelle ici devienne une famille et que nous ne renouvelions pas les difficultés importantes que nous avons eues l'année dernière, il y a 2 ans, avec des groupes qui se formaient, qui ont beaucoup œuvré contre la vertu de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, ce texte des Actes des Apôtres, texte du Saint-Esprit, donc écrit par Saint Luc, et c'est certainement un texte fondamental. C'est ce texte qu'il faut connaître, qui par lui seul détruit toutes les bêtises dites à droite et à gauche sur l'écuménisme actuel. Et vous savez que malheureusement dans l'église du Vatican II raconte n'importe quoi sur ces sujets-là. Que toutes les religions se valent, que tous les dieux sont les mêmes dieux qui amènent au même paradis, que toutes les religions sont simplement des musiques différentes pour former le même orchestre. En fait, toutes ces bêtises actuelles, tout est enseigné dans l'Église, dans le texte d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien chers frères. Un seul Dieu qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit « Je suis une des voies, une des vérités, une des vies ». Il a dit « Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi est disperse. » Et le texte de Saint-Luc très très clair sur ce sujet. Que vous sachiez que cet homme se tient devant vous pleinement guéri. Donc Saint Pierre vient de guérir un boiteux, qu'on appelle le boiteux de la Belle Porte à Jérusalem. Un homme qui était boiteux de naissance, qui était apporté par sa famille tous les jours à l'entrée du temple pour faire l'aumône, pour pouvoir manger. Et Saint Pierre va le guérir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice qui est devenue la pierre angulaire. Le salut n'est en aucun autre. Il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Peut-être rappeler ce texte, mon bien cher frère, à M. Bergoglio à Rome, qui n'oublie pas ça. Un seul Dieu. J'ai vu plusieurs fois des gens même faire des réflexions, parfois même des catholiques. Il y a des personnes qui sont venues voir après un sermon, me disant, Monsieur Levé, vous n'avez plus le droit de dire qu'hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Vous vous rendez compte où on en arrive? Si on peut être sauvé par d'autres églises, pourquoi l'église a-t-elle envoyé des missionnaires dans le monde entier, qui sont fait littéralement trouver la peau pour notre Seigneur Jésus-Christ? Nous devons avoir, mes bien chers frères, comprendre l'importance de cet homme absolument essentiel. Nul ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul roi, qu'un seul créateur, qu'un seul rédempteur. Il ne faut pas penser une seule seconde que les catholiques sont sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, les bouddhistes par Bouddha et les musulmans par Mahomet ou par Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le même Dieu qui a créé tous les hommes, mes bien chers frères. Le même Dieu qui est roi par nature parce qu'il est créateur. Le même Dieu qui est roi par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Et il faut plus que jamais insister sur ces choses. Ce texte que je viens de vous lire de Saint-Luc est certainement un des textes les plus importants de l'Écriture sainte qui tout simplement explique le premier commandement de Dieu, c'est tout. Dans la liste des 10 commandements, le premier commandement le plus important. Il ne faut pas penser une seule seconde que tous les commandements sont à placer au même niveau. N'oubliez pas que Dieu a donné à Moïse les commandements sous deux tables. Et la première table s'adresse directement à Dieu, commandements 1, 2 et 3. Les commandements 4 à 10 s'adressent, sont donnés pour nos relations avec le prochain. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas prendre la femme de son prochain, sont des commandements qui regardent le prochain. Mais le premier commandement s'adresse à Dieu directement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas de faux dieux, d'autres dieux en ma présence, dit notre Seigneur. Et non seulement il dit tu n'auras pas d'autres dieux en ma présence, mais il précise, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Tout est dans la charité, mes bien chers frères, la vraie charité. Ça veut dire quoi aimer son prochain pour l'amour de Dieu? Ça veut dire aimer, aider le prochain à monter vers Dieu. On n'aide pas le prochain à monter vers Dieu en maintenant le prochain dans le péché. On n'aide pas le prochain à monter vers Dieu en maintenant le péché, l'âme du prochain dans le péché mortel jusqu'au cou. Quand j'ai parfois des familles qui viennent me voir en me disant, Monsieur l'abbé, notre garçon vit en concubinage avec une fille, comprenez, on ne peut pas faire autrement que d'accepter la situation. Vous ne pouvez pas accepter la situation. Parce qu'il vous faut aimer votre fille, votre fils et votre fille pour les aider à monter vers le bon Dieu. C'est votre devoir d'État, c'est mon devoir d'État de prêtre, c'est votre devoir d'État de parent. Mais bien chers frères, il faut absolument comprendre ces choses-là. Le premier commandement est le commandement essentiel. Nous n'avons pas le droit en tant que catholiques de descendre le véritable Dieu au niveau des faux dieux. Il y a un vrai Dieu et des millions de faux dieux. Et Dieu est un Dieu jaloux, nous dit l'Écriture sainte, qui n'accepte pas de partager sa gloire avec des faux dieux. Rappelez-vous votre catéchisme. Lorsque le catéchisme parle du premier commandement, le catéchisme de Saint-Pédis, qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle les péchés essentiels qui sont des péchés fondamentaux contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ devient-il de plus en plus difficile à remplir? Parce que le premier commandement est bafoué, mes bien chers frères. Et il est bafoué surtout par ces trois péchés contre le premier commandement, l'idolâtrie, le sacrilège, l'ignorance coupable des vérités de foi. C'est pas moi qui parle, c'est Saint Pie X. Ne pas oublier, mes bien chers frères, toutes ces choses qui sont absolument essentielles. Encore une fois, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec des faux dieux, sinon il n'est plus Dieu. Pourquoi? C'est que si j'accepte l'idolâtrie, si j'accepte le sacrilège, si j'accepte l'ignorance coupable des vérités de foi, alors à ce moment-là, c'est tout le règne social qui saute. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi de la société, et si Dieu n'est pas roi de la société, alors c'est quelqu'un d'autre qui va prendre cette place. Et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place du roi de la société, qui est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un faux Dieu. C'est le démon. Donc, ou je reconnais Dieu comme roi de ma société, par nature et par droit de conquête, par nature parce qu'il est créateur, par droit de conquête parce qu'il est rédempteur, ou c'est le démon qui va prendre la place. Ou j'adore le vrai Dieu, ou je serai obligé, contraint, forcé d'adorer un faux Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans idole, c'est impossible. L'homme ne peut pas vivre sans adorer quelqu'un, quelque chose. Ou on adore le vrai Dieu, ou on adore les faux dieux. Alors attention à l'idolâtrie, mes bien chers frères. L'idolâtrie, le péché certainement le plus grave, qui injurie le plus notre Seigneur Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est quoi? L'adoration des faux dieux. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a dans ma vie de tous les jours des choses, des gens, des personnes, des objets, des instruments, n'importe quoi, qui passent pour moi avant Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Dieu ou ses créatures? Ça, c'est l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. J'ai vu des gens qui sont capables de manquer la messe du dimanche volontairement pour un match de football. C'est quoi ça? On veut passer le football avant le bon Dieu, ça s'appelle un péché d'idolâtrie. J'ai vu des gens qui, pour des histoires professionnelles, sont capables d'envoyer promener complètement notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'argent devient plus important que Dieu, à ce moment l'argent devient un faux dieu. C'est l'idolâtrie. Le deuxième péché, c'est le sacrilège. Conséquence de l'idolâtrie. Et n'oubliez pas une chose qui est fondamentale, qu'on oublie un peu trop. Je conseille beaucoup de relire dans l'Épître aux Romains de Saint Paul. Dans l'Épître aux Romains de Saint Paul, chapitre 1, c'est facile à se retenir la référence, chapitre 1 de l'Épître aux Romains de Saint Paul. Saint Paul explique dans cette épître fondamentale, écrite par le Saint-Esprit, mes bien chers frères. C'est Dieu qui, c'est la foi catholique qui nous enseigne, c'est Dieu qui enseigne par le Saint-Esprit en nous donnant la Sainte Bible. Et Saint Paul explique dans la première et deuxième partie du chapitre 1 de l'épître aux Romains que les péchés contre nature qui sont en train de détruire le monde moderne aujourd'hui sont une conséquence directe du péché d'idolâtrie. C'est ce qu'il dit. Et parce qu'on a commencé à adorer les créatures, Dieu à ce moment-là a livré les hommes à ces perversions contre nature. Donc ces péchés épouvantables contre nature qui ont envahi le monde moderne, malheureusement, sont des conséquences directes du péché d'idolâtrie. Le deuxième péché qui s'oppose le plus à l'honneur dû à notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois c'est Saint Pie X qui parle, c'est le péché de sacrilège. Est-ce que j'ai été coupable de ces péchés-là? Péché de sacrilège, la profanation d'une chose consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je réalise que quand je commets un état de péché mortel, quand je fais rentrer notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans mon âme en état de péché mortel, c'est comme si je profanais la porte du tabernacle, je prenais les hosties consacrées, je les jetais dans le poulailler pour les faire dévorer par faire dévorer le corps du Christ par les poules. Pareil. C'est la même chose. Est-ce que nous pensons à ces choses-là? Est-ce que je réalise que lorsque, au confessionnal, je cache volontairement une faute grave, je commets aussi un péché de sacrilège? Et ces péchés de sacrilège sont certainement des péchés qui offensent le plus notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces péchés de sacrilège, ces péchés d'idolâtrie, ce sont hélas, mes bien chers frères, répandus partout comme une très nette poudre dans le monde moderne. Alors, il faut qu'au moins, mes bien chers frères, au moins dans l'Église catholique, qu'il faut que nos fidèles réagissent pour que nous ayons avec, avec honneur, que nous ayons au fond de notre cœur l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un honneur au monde, l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que chantaient les Vendéens. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces. Soyons fiers d'être catholiques. Soyons fiers d'être catholiques. Nous pourrions appartenir à une fausse religion en train d'adorer les étoiles, la lune ou les singes. On se rend pas compte, on ne réalise pas. J'ai réalisé ces choses-là dans mes missions quand j'étais en Asie du Sud-Est. J'ai vu plusieurs fois à Bangkok, par exemple. C'est une des choses qui m'a le plus frappé. Des villes énormes, des métropoles de millions, de dizaines de millions d'habitants. Il n'y a pas une croix, il n'y a pas une église, il n'y a rien. Avec ces petits hôtels dans la rue, partout, à tous les croisements importants, avec les gens qui viennent faire leur libation devant une statue de singe ou une statue d'éléphant. Ils adorent un singe, ils adorent un éléphant parce qu'ils n'ont pas connu notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au moins, ces gens-là, ils ont l'excuse de ne pas jamais avoir rencontré un prêtre. En France, c'est différent, mes bien chers frères. Parce que la France est finie de l'Église. Elle est bien malade, mais elle est toujours finie de l'Église, au moins en principe. Et nous, nous avons 20 siècles de catholicisme. N'oubliez pas que la foi catholique est arrivée en France dans la première moitié du premier siècle, mes bien chers frères. Première moitié du premier siècle, lorsque Sainte-Marie-Madeleine est arrivée, Sainte-Marie de la Mer, avec Sainte-Marthe, avec Saint-Lazare, quand Saint-Lazare est devenu premier évêque de Marseille, quand Saint-Paul a envoyé Saint-Denis à Paris pour prêcher l'évangile dès le début de la deuxième moitié du premier siècle, mes bien chers frères. N'oubliez pas qu'au temps où les cathédrales étaient construites en France, en Europe, mes bien chers frères, pendant ce temps-là, au Mexique, pays que je connais bien parce que j'ai signé à droite et à gauche pendant des années, au Mexique, il y avait des milliers de sacrifices humains. Des gens qui n'avaient jamais connu notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on a 20 siècles de christianisme et on veut avoir honte de notre foi. On nous pousse à avoir honte de notre foi. Alors, mes bien chers frères, retrouvons une foi forte. Nous rappeler les conditions d'appartenance à l'Église. Encore une fois, c'est les bases du catéchisme. Quelles sont les conditions pour être catholique? Le baptême d'abord, bien sûr. Le baptême, la foi, et Saint Pédisi, la vraie foi, sous-entendu il y a une fausse. L'usage des sacrements et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Être baptisé, la foi, les sacrements et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne pas reconnaître le pape comme le premier représentant de la communauté, pas du tout. Encore une fois, se rappeler, ne jamais oublier que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi n'appartient pas à M. Bergoglio à Rome. Il utilise son pouvoir aujourd'hui pour tout détruire. Non, la foi ne lui appartient pas, la foi appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et se rappeler, mes bien chers frères, que l'appartenance à la foi est nécessaire au salut. Personne ne peut être sauvé sans appartenir à l'Église catholique. Voilà pourquoi l'Église a toujours envoyé pendant des siècles et des siècles des missionnaires dans le monde entier pour convertir, aider les gens à se sauver. N'oubliez pas que l'Église catholique, c'est le corps mystique du Christ, mes bien chers frères. Il y a un corps et une âme dans l'Église. Quel est le corps de l'Église? Qu'on appelle le corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Quand je suis baptisé, après avoir reçu le baptême catholique, j'appartiens au corps de l'Église. Est-ce que ça suffit pour aller au salut, pour aller au ciel? Non, sauf pour les bébés, qui n'ont pas encore l'âge de raison. Mais malheureusement, puisque par ma propre bêtise, je suis parfaitement capable de perdre la grâce du bon Dieu par les péchés personnels, Dieu nous a donné justement les sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, pour restaurer notre intégrité spirituelle après le péché. Et donc, le plus important, c'est d'appartenir à l'âme de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'âme de l'Église? L'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Le jour de notre mort, le jour où nous passerons devant notre Seigneur Jésus-Christ ne va nous poser qu'une seule question. Est-ce que tu es en état de grâce? Il y a deux fois que toute personne qui meurt en état de grâce va au ciel. Il y aura un passage au purgatoire. On va au ciel. Par contre, si je ne suis pas en état de grâce le jour de ma mort, alors à ce moment-là, la porte du ciel m'est fermée. Donc ne pas oublier toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le bon Dieu nous donne les grâces et nous a donné les grâces. Et n'oubliez pas que si vous, mes bien chers frères, vous avez, avec la grâce du bon Dieu, pu conserver la foi, c'est une grâce du bon Dieu. Mais parce que vous avez pu conserver la foi, c'est aussi un devoir d'être fidèle à cette grâce. C'est pareil pour moi. Ce que je vous dis est valable parfaitement pour moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Pareil pour moi. Je pourrais être un prêtre moderne. Je pourrais être en train de jouer de la guitare dans les pubs d'Albi avec une en tongs et en short en train d'essayer de convertir les gens à une espèce de foi complètement stupide. La grâce du bon Dieu, j'ai rencontré Monseigneur Lefebvre et j'ai pu être formé par lui. C'est une grâce. Mais cette grâce donne des obligations, mon bien cher frère. Parce que j'ai reçu ces grâces, j'ai l'obligation d'être fidèle, c'est pareil pour vous. Les pauvres gens qui ont rien, qui vont dans les messes modernes où il n'y a rien du tout, qui sont un bout de pain pour la communion, qui ne sont même pas pardonnés de leurs péchés parce qu'il n'y a même plus de confession, de toute façon, vraisemblablement, leurs prêtres ne sont même plus prêtres, ils ont au moins l'excuse de dire, ben, mon Dieu, j'avais rien. Mais vous, mes bien chers frères, vous qui avez la messe traditionnelle, vous qui avez la grâce de la foi catholique, n'oubliez pas que cela vous donne des obligations pour vos enfants, des obligations pour vous-même, pour être fidèle. Donc il faut demander avec humilité cette grâce de la fidélité, mes bien chers frères. Cette grâce de la fidélité. Soyons fidèles, fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, fidèles à l'enseignement de l'Église catholique. Et lorsqu'on entend toutes ces abominations qui viennent malheureusement de Rome aujourd'hui de plus en plus ouvertement, eh bien soyons fermes justement pour affirmer la foi catholique qui ne peut être changée parce que notre Seigneur Jésus qui est Dieu et étant Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Voilà bien chers frères ce qu'il nous faut comprendre. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à cette Mère du Ciel, à notre bonne Mère du Ciel, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Les temps sont difficiles, les temps deviendront de plus en plus difficiles. Mais le bon Dieu vous donnera la grâce, le bon Dieu nous donnera la grâce, à moi comme prêtre et à vous comme fidèle, pour arriver à tenir le coup dans le monde moderne. Mais pas tout seul. Je ne tiendrai pas le coup sur la très sainte Vierge Marie, c'est impossible. Si le bon Dieu a voulu mettre au pied de la croix la très sainte Vierge, ce n'est pas pour rien. Si elle est co-rédemptrice du genre humain, ce n'est pas pour rien. Si elle est médiatrice du genre humain, ce n'est pas pour rien. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Étudiez votre catéchisme, priez votre chapelet tous les jours pour arriver à tenir le coup. Et un jour, le bon Dieu nous dira cette phrase magnifique, « Venez, bon, fidèles serviteurs, possédez le royaume qui vous a été préparé pour vous et pour les anges. » N'oubliez pas qu'un jour il y aura cette séparation, mes bien chers frères, entre les bons et les mauvais. Il y aura ce que l'Évangile appelle les boucs à gauche et les brebis à droite. Et il y aura aussi une autre phrase qui sera dite à tous ceux qui ont été infidèles, mes bien chers frères. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, préparé pour Satan et pour ses anges. Il ne faut pas se dire, mais monsieur l'abbé, moi pour moi, pas de problème parce que je suis baptisé, je garderai la foi. Vous garderez la foi si Dieu vous donne la grâce de la conserver la foi. Pareil pour moi. Pareil pour moi. J'ai des confrères qui ont reçu la même formation que moi, qui disent la nouvelle messe, mais bien sûr. J'en connais. Des amis de séminaire. Alors, demandons cette grâce de la fidélité. Et la grâce de la fidélité passe par la vertu d'humilité, passe par le don de prière, passe par la sagesse, passe par la confession fréquente, passe par la communion fréquente, et passe surtout par la récitation du chapelet tous les jours. Récitez votre chapelet tous les jours, mes bien chers frères, pour être fort, ferme dans la foi, pour qu'un jour, avec la grâce du bon Dieu, nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.